Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième volet de notre aventure existentielle. Les oiseaux chantent, la vie est belle, même en automne et avec tous les soucis du monde. Aujourd'hui, oui, je suis simplette pour vous parler en toute simplicité de la simplicité. C'est bon, vous l'aurez compris. Avec moi pour en parler, toute une équipe venue de Paris, d'Allemagne, des États-Unis, bref, internationale. Pauline, notre correspondante berlinoise, va nous faire un point sur la notion de simplicité en empruntant la voix de Thomas. Puis Cécile Rénoir, entre autres professeur de philosophie, approfondira l'analyse. Enfin, nous passerons avec un grand professeur venu d'Allemagne et présent en studio parmi nous aujourd'hui à une partie plus pratique, afin de mettre en application ce que nous aurons appris auparavant et aussi afin de nous détendre un peu après la réflexion ardue et sérieuse. Mais d'abord, nous laissons la parole à un premier invité surprise.
Qui êtes-vous ?
Moi ?
On m'appelle Simple, l'innocent du village. Doux comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement. Moi je vis de l'air du temps, je dois tout ça au conseil de mon papa. Je garde son secret, c'est mon seul héritage. Mon bonheur est complet, on m'appelle Simple.
La simplicité est une notion complexe. Aucune ironie dans la formule, c'est un fait, aussi paradoxal soit-il. En effet, substantif de son état, membre d'une grande famille lexicale, la simplicité est à la fois liée à des termes frères, de nature certes différente, mais ses descendants spirituels, l'adjectif simple et l'adverbe simplement, ainsi qu'à d'autres substantifs dont elle partage la nature tout en différant d'eux en esprit. Pensons à ce cousin dont nul ne sait s'il est irrémédiablement pervers ou franchement naïf, le simplisme. Pensons encore à cet ongle pédagogue, ou démagogue, c'est selon, la simplification. Nous y reviendrons. Mais si, dans la Vérone des trésors de la langue française, la simplicité a déjà maille à partir avec ses propres parents, elle se doit encore de combattre une famille ennemie et hostile, celle de complexité, complication et compagnie. Mais leurs intérêts sont-ils vraiment si irréductiblement antagonistes ? Si la complication se définit comme le fait de rendre des choses simples, compliquées, il en va autrement de la complexité qui, plutôt qu'elle ne s'oppose, semble s'allier à la simplicité, voire la compléter, la faire évoluer, avancer et aller-retour. Roméo et Juliette, Laurel et Hardy. Il y a comme une continuité du simple au complexe et, en conséquence, une inscription de la notion dans le temps. On commence par apprendre les choses simples, élémentaires, dit-on, c'est-à-dire les choses premières. Premières dans l'accomplissement de notre histoire personnelle et premières dans la construction de notre être social. Non pas juste fondamentales, mais surtout fondatrices. C'est l'acquisition du langage, c'est l'apprentissage de la marche, de la propreté, puis ce sont les bancs de l'école et les cours de récré, les longs couloirs de la fac, le bureau et les dossiers, les relations sentimentales et les rapports sexuels, les valeurs, la foi. L'être grandit et gagne en existence. Simplicité et complexité forment ce couple complice, celui auquel nous devons ce qui forme notre moi et nous lie au monde et aux autres. Moi, le monde, les autres, la simplicité est la moitié d'une métaphysique à la fois binaire et unificatrice. Et, ainsi, aussi, une spiritualité. En langue allemande, le terme simple se dit tantôt Einfach, tantôt Leicht, et là vous regrettez que ce ne soit pas Pauline qui vous parle. Ein atteste peut-être justement de cette tendance à l'unification, à la réconciliation, à la cohésion, en fait, à la communion, car c'est l'un qu'elle traduit. Quant à Leicht, il signifie aussi léger, et semble aussi dire de la simplicité qu'elle est spirituelle, apanage d'une conscience tranquille, d'un cœur léger et d'un esprit serein. Elle part l'homme d'elle, et volant au ciel, nous devenons ange et albatros. La simplicité, métaphysique et art. Nous disions donc de la simplicité à la complexité, mais aussi aller-retour. Si l'apprentissage de la phrase complexe vient, généralement, car logiquement, après celui de la phrase simple, la maîtrise de la complexité ne doit cependant entraver ni la compréhension, ni l'exercice de la simplicité. Et la fameuse question mérite d'être posée qui demande « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Ici, nous nous retrouvons à côtoyer cet oncle qui a la vulgate facile, la simplification. Mais est-il si infréquentable ? Écoutons-le un instant, il a beaucoup à nous apprendre. De fait, si nous mettons de côté l'écueil que lui prête une certaine connotation, à savoir l'écueil de la vulgarisation à outrance, de la crétinisation, et si nous ne retenons de ce parent généreux que sa volonté d'ouvrir le savoir, de le rendre accessible et disponible, il ressort que la simplicité n'est pas nécessairement un pur état, ni un absolu. Elle peut être en effet le produit d'un processus, le résultat d'un travail, de plus besogneux, laborieux, au plus talentueux. Et alors nous arrivons à ce paradoxe, la simplicité, non plus celle qu'on acquiert mais celle qu'on dispense, est un objet complexe, car fruit d'une élaboration, sinon lente, tout au moins patiente et pensée. Fécondité du labeur, celui qui reçoit pourra reproduire et produire à son tour. Simplicité fondatrice, simplicité créatrice. Mettre à portée des intéressés qui eux-mêmes mettront bas, partager, engendrer. La simplicité via la simplification, simplification juste et mesurée, quantitativement aussi bien que qualitativement, est transmission, lien, vie. Mais à rebours de ces belles considérations, force est de constater que la simplicité est souvent pointée du doigt, dénigrée, critiquée, condamnée. C'est qu'on la confond, alors, avec la trop grande simplification, celle qui consiste non pas à faciliter la transmission des savoirs, mais à faire avec ce que l'apprenant sait déjà, sans chercher à le pousser hors de ses retranchements ou de sa zone de confort. La simplification qui mène à un tel point de simplicité des vues qu'elle n'a plus qu'à reposer sur la suffisance de celles et ceux auxquels elle s'adresse. Ici, c'est au tour de l'adverbe « simplement » d'être évoqué. Simplement ou tout simplement, qui pourrait aussi bien se dire seulement, juste, ou se traduire par ces structures typiquement jusqu'au bouddhiste, ne que ou yaka, qui peuvent aussi bien trahir la restriction, la limitation, que la satisfaction ou le contentement. La mort du désir, en somme, ou la simplification tuante, la simplicité assassine. Fin de partie pour la curiosité, la recherche, l'attention. La simplicité est évidence, un ennui. Ennui, hein ? Souvenons-nous alors du poète, et dans ce bâillement avalerait le monde, c'est l'ennui. Et face à la simplicité qui confine à l'évidence, méfiance. En effet, c'est alors l'épreuve du simplisme, avec lequel on amalgame parfois la simplicité. Le simplisme qui, pourtant, bien loin de l'authenticité de la simplicité vraie, n'est jamais qu'une posture, et même selon La Rochefoucauld, une imposture délicate. Jolie expression, trop jolie même, car quand on pense à la dimension caricatural et au manichéisme dangereux de toutes les idéologies, des plus graves aux plus fantasques, et quand on ne perd pas de vue que c'est précisément avec des idées simplistes que l'humanité a le plus tué et le plus été tuée, on ne saurait plus parler du simplisme comme la frivole attitude de frêles et coquettes dames caquetant dans un boudoir baroque, bavardant de tout et de rien, superficiel. Non. Non et non, le simplisme, nouvel opium du peuple et machiavélique instrument des puissants, nous entraîne et nous enchaîne en plein paradis artificiel. Totalitarisme intellectuel, non pas discussion de tout et de rien, mais dictature du tout ou rien. Il joue de notre faible pour la facilité, du suivisme complaisant à la servilité coupable, le simplisme nous fait peindre et percevoir la vie en noir et blanc ou en rose. Ou en rouge, mais se faisant idéaliste mais non incrédule, c'est à l'analyser en long, en large et en travers que nous renonçons. La simplicité, l'authentique, est une qualité. Elle est sobriété, capacité à se satisfaire et peut-être à survivre au dénuement. Elle n'est pas incompatible avec la complexité. A contrario, même, elle en est la complice. Cultiver son jardin et profiter des joies simples de l'existence, dit-on. Mais elle nécessite aussi, inévitablement, un équilibre pour éviter les écueils du simplisme, du manichéisme, de l'ennui. La simplicité ? Une chose complexe, vous dis-je. En fait, une corde raide, sur laquelle, donc, il suffit de marcher, lever et poser un pied après l'autre. Mouvement continu, mais décomposable. Avec, certaine et constante, la menace de la chute et lancinant, le vertige face à l'abîme de l'existence que le simple, non pas ne sait pas, mais refuse de voir et ainsi avancer droit. La simplicité peut être un optimisme.
Merci Pauline Thomas, Thomas Pauline, de nous avoir expliqué, déployé la complexité de la simplicité. Et c'est maintenant l'heure de l'interview Existe Essentiel, réalisée il y a quelques semaines lors du court passage de notre invité à Lyon. Cécile Renouard va nous parler de la simplicité. Elle est professeure de philosophie, mais pas seulement, c'est aussi une sœur. On s'y attendait, allez-vous me dire, on va encore parler de la simplicité évangélique, du retour aux sources et patati et patata. Eh bien, pas du tout. Nous avons plutôt décidé de lier la notion de simplicité à celle de dégagement joyeux, une attitude face aux événements de la vie dont sœur Cécile de la Congrégation des Sœurs de l'Assomption va nous parler tout de suite. Bonjour sœur Cécile.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Oui, c'est avec joie. Oui.
Donc, si vous voulez bien, commencez par vous présenter pour que nos auditeurs sachent un peu à qui ils ont affaire.
Sœur Cécile Renoir, je suis religieuse de l'Assomption depuis 21 ans. Voilà, je suis rentrée dans la vie religieuse après avoir fait des études, une hippocagne quand même d'abord, et puis après une prépa HEC, j'ai étudié à l'ESSEC, à la suite de quoi j'ai fait un grand voyage sac au dos qui m'a permis de me poser la question d'un choix de vie. Je suis rentrée donc dans une congrégation catholique, les religieuses de l'Assomption. Ensuite, je pensais que c'était la fin de mes études, mais pas du tout, parce que j'ai fait des études de philosophie, j'ai enseigné la philosophie en lycée. Pendant plusieurs années, puis j'ai fait des études de théologie, et du coup les jésuites m'ont proposé d'enseigner au Centre Sèvres, qui est faculté jésuite de Paris, et ce qui supposait de trouver une matière sur laquelle, à partir de laquelle enseigner, et j'ai choisi de faire donc une thèse de philosophie politique qui concernait la question de la responsabilité, disons, éthique et politique des multinationales. Voilà, et donc ce qui me permettait aussi de lier les fils de mon parcours. Et donc aujourd'hui, je suis à la fois enseignante au Centre Sèvres en philosophie politique et éthique sociale. J'ai aussi un cours, j'enseigne aux troisième année de l'École des Mines de Paris, enfin, ceux qui sont intéressés par les sujets éthiques liés à l'action des entreprises. Et puis je dirige un programme de recherche à l'ESSEC dont le titre est « Entreprise et développement ». Et dans ce cadre-là, j'essaye de réfléchir avec des chercheurs de différentes disciplines, donc des économistes, sociologues, politologues, anthropologues, aux conditions d'une contribution réelle des entreprises au développement.
Donc on peut dire en somme que vous êtes quelqu'un de très engagé. Et c'est justement là qu'on va revenir tout de suite, parce que lorsque nous avons pris contact pour la première fois par écrit, vous parliez du dégagement, et puis dans mon effervescence, j'ai cru que vous parliez du désengagement. Alors effectivement, on peut dire que dégagement rime, au moins en apparence, avec désengagement et détachement. Mais qu'en est-il en réalité ? Est-ce qu'on peut bien lier ces deux termes ou non ?
Pour moi, l'expression de dégagement et dégagement joyeux, qui est une expression qui paraît très étonnante la première fois qu'on l'entend. Alors, c'est une expression qui avait été forgée par la fondatrice de ma congrégation au cœur du 19e siècle. Et je pense que c'est important de le souligner. C'est un moment où, quand même, dans la spiritualité, en général, on avait tendance à insister beaucoup sur une certaine forme de mortification, disons, un rapport au monde qui soulignait la présence, pour faire bref, du mal, de la souffrance, à différents égards. Et Marie-Eugénie Milleret, la fondatrice, avait parlé du dégagement joyeux comme étant une invitation, alors pas du tout à vivre un détachement ou un désengagement à l'égard du monde, mais un dégagement à l'égard finalement de ce qui ne nous construit pas, à l'égard de ce qui nous attire vers justement ce qui est source de mort plutôt que vers ce qui est source de vie. Et elle invitait à vivre cette attitude du dégagement comme une attitude spirituelle profonde qui est la condition d'un engagement plein et entier dans le monde et qui allait pour elle de pair avec l'amour du monde dans lequel nous sommes. Ça, je trouve que c'est très, très important à souligner. C'est qu'il s'agit, et je pense, quelles que soient nos convictions, nos croyances, de nous dégager, d'ailleurs avec la dimension dynamique qui existe dans le sens d'un dégagement, c'est se libérer de ce qui est superflu, se libérer de ce qui nous encombre, de manière à pouvoir avoir un rapport plus libre et plus heureux, finalement, au monde dans lequel nous sommes.
Mais alors concrètement, dans nos vies quotidiennes, comment est-ce que ça peut se manifester ?
Je dirais qu'il y a des aspects qui peuvent être extrêmement concrets et actuels. Nous entendons parler, d'ailleurs peut-être nous n'en parlons pas assez, des questions écologiques, des questions relatives à l'avenir de la planète, au sort des générations futures. Et nous savons que nous sommes en période de mutation, à beaucoup d'égards, et qu'il nous faut chercher les moyens d'une, ce qu'on appelle la transition écologique et énergétique, donc réduire drastiquement notre consommation d'énergie. Ça vaut du point de vue climatique, pour lutter contre de trop nombreuses émissions de gaz à effet de serre, pour éviter des atteintes à la biodiversité et autres. Et quand on parle de l'écologie, eh bien, on insiste souvent sur le fait qu'il s'agit en même temps de réduire donc un certain nombre de choses, de s'imposer des restrictions, de mettre en place des normes, des réglementations pour apprendre à vivre autrement. Et ce que je trouve très intéressant avec cette dimension du dégagement joyeux, c'est qu'elle peut nous inviter à retrouver une forme de sobriété qui soit une forme de sobriété heureuse liée à la recherche d'un partage, d'une solidarité avec d'autres, avec nos prochains, on pourrait dire nos prochains éloignés dans l'espace et dans le temps, à la fois ceux qui, à l'autre bout de la planète, ou même parfois proches de nous aussi, sont les plus vulnérables et subissent déjà de plein fouet alors la crise économique et financière, mais pour certains déjà les effets sociaux de transformation de l'environnement. Et puis, cet appel à plus de modération, on pourrait dire, à moins de démesure, à moins d'hubris dans nos comportements, eh bien, elle peut aller de pair avec la reconnaissance que se libérer du superflu, c'est aussi une façon de trouver une liberté plus grande et du coup, mobiliser nos ressources spirituelles. Je crois que c'est ça que propose cette attitude et cette expression du dégagement joyeux.
Et je pense qu'on peut aussi alors transposer ça dans nos vies intimes et spirituelles et aussi psychiques, dans tout ce qui se passe dans notre tête lorsque nous sommes pris par toutes nos pensées, tous nos soucis. Alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut se désengager aussi et finalement aller plus au fond de soi-même et se trouver soi-même?
Oui, alors je dirais là encore, se dégager intérieurement, c'est peut-être aussi essayer de revenir à ce que nous avons de plus profond en nous, à ce qui est quelqu'un comme saint Augustin disait, revenir au le plus intime du plus intime de nous-mêmes, c'est cette source spirituelle profonde qui est en chaque, dont nous croyons, et je pense, quelle que soit l'expérience que nous pouvons faire face à la beauté de la nature, face à la joie de la rencontre ou d'amitié vécue, c'est que ça rejoint le plus profond et le plus vivant en nous. Et du coup, il me semble qu'il y a déjà un discernement à faire dans nos vies pour nous dire finalement, qu'est-ce qui me rend le plus vivant? Qu'est-ce qui touche en moi, ce qui me semble être le plus moi-même, et qui parfois m'échappe. Et donc, discerner ce qui est source de vie et de joie profonde, c'est une source de paix, de sérénité, de vie durable. Et ça, je pense que ça passe aussi par l'expérience que se mettre un peu à distance de ce que nous faisons de manière très machinale, ou de cette façon que nous avons de vivre les expériences comme si elles se succédaient, comme on peut dire l'essuie-glace, c'est-à-dire une expérience en chasse une autre, et plutôt pouvoir goûter ce que nous vivons, à la fois l'instant présent, mais aussi avec cette capacité de pouvoir prendre distance et relire ces expériences heureuses et réaliser qu'à tel ou tel moment, nous avons expérimenté une forme de joie, de paix, et pouvoir se dire que le bonheur n'est pas dans l'accumulation, mais plutôt dans le fait de pouvoir goûter intérieurement les choses. Et je pense que ça va aussi de pair avec la prise en compte des différentes dimensions de l'existence. Et parfois, nous sommes polarisés par une inquiétude, par le fait de ne pas avoir le sentiment de ne pas avoir été compris, de ne pas avoir été entendu. Et là, par exemple, quelqu'un qui est un pasteur protestant, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, qui, alors qu'il avait été mis en prison pour son action de résistance contre Hitler au moment de la Seconde Guerre mondiale, il était allemand, dans ses lettres de prison, a des propos absolument magnifiques à partir de l'expérience qu'il a lui-même vécue au moment des bombardements. Et il réalisait qu'au moment des bombardements, il risquait d'être complètement polarisé sur la peur qui était la sienne, et qu'en se dégageant de cette seule peur, il était capable de ressentir beaucoup d'autres émotions et de retrouver un rapport plus plein à l'existence. Alors, je vais lire un passage où il parle de ce qu'il appelle justement la polyphonie de la vie. Donc, il écrit « Il y a peu d'hommes capables d'héberger en eux beaucoup de sentiments. Quand les avions approchent, ils ne sont que peur. il passe à côté de la plénitude de la vie. Si, par exemple, nous songeons à notre devoir de répandre le calme autour de nous, la situation se modifie totalement. La vie n'est pas refoulée dans une dimension unique, mais elle reste polyphone et à plusieurs dimensions. Quelle libération de pouvoir penser et de maintenir par la pensée cette pluralité de dimensions. Alors c'est ça, je trouve que là, il y a vraiment un chemin de vie qui est dans ces paroles, dans cette invitation à ne pas se focaliser sur une seule chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas vivre pleinement ce que nous avons à vivre, mais c'est justement en ayant cultivé en nous cette capacité à accueillir la polyphonie de la vie que nous pouvons finalement être beaucoup plus réceptifs à ce qui se passe en nous et autour de nous. Et c'est une manière de conjuguer à la fois donc, cette expérience polyphonique et une forme où on retrouve cette question de la simplicité de vie à cultiver. Et là encore, je trouve que l'expression là, du dégagement joyeux, elle dit bien cette polarité. C'est à la fois se dégager pour être réceptif à une pluralité de dimensions, et c'est en même temps faire l'expérience d'une simplification intérieure de la personne.
C'est très intéressant ça, de pouvoir lier simplicité et pluralité, alors que finalement cette association paraît plutôt paradoxale. Et je voudrais encore aller plus loin. Je me pose aussi la question, mais je pense que certains auditeurs aussi se la posent, que cela paraît peut-être faisable d'avoir une telle attitude dans beaucoup d'événements dans notre vie, mais si on va à l'extrême, est-ce qu'on peut aussi arriver à accepter alors ce qui nous échappe totalement et ce qui nous fait le plus souffrir et nous révolte le plus, la mort à la fois la nôtre et celle de nos proches? Est-ce que là, il peut aussi y avoir une forme de dégagement qui puisse quand même être joyeux d'une certaine manière?
Alors, c'est vrai qu'il faut être très prudent là-dessus, parce que je pense que l'expérience de la joie intérieure, évidemment, il ne s'agit pas, ce n'est en aucun cas une insensibilité, un détachement à l'égard de nos sentiments, de nos émotions, et encore moins à l'égard de la souffrance vécue par d'autres. Mais je pense que c'est aussi cette expérience très paradoxale et d'une certaine manière justement qui est une expérience, donc il y a quelque chose d'intransmissible, mais dont certains arrivent quand même à rendre compte, qui est le fait que joie et souffrance peuvent cohabiter, au sens où une certaine forme de joie ou de sérénité peuvent être liées à l'expérience d'un amour qui est plus fort que tout et qui d'une certaine manière est au-delà de la mort et de la séparation. Alors c'est vrai que pour les chrétiens, je pense que profondément, cette expérience-là, c'est cette expérience dont nous croyons que c'est celle qui est faite par le Christ sur la croix. Et le Christ ne riait pas, c'était pas on peut évidemment pas parler de joie au sens où nous parlons de la joie en général. Mais en même temps, il y a dans l'expérience pascale ce passage de la mort à la vie et d'une vie qui est plus forte que tout, et dont nous croyons qu'elle est source de joie pour l'humanité. Et quand on parle de la joie pascale, c'est bien cette joie qui est passée par la mort. Et donc ça lui donne aussi évidemment une gravité, et c'est ce qui permet, je pense, aussi pour nous de nous dire que nous pouvons traverser les épreuves et que la souffrance, la mort, ce dont nous avons le plus peur pour nous et pour les autres, ça peut être aussi le lieu d'un amour vécu avec et pour d'autres, et donc un chemin de vie.
Lié à ce chemin de vie et en prenant le pendant de la mort, c'est-à-dire le tout début de la vie, est-ce que finalement on ne peut pas résumer tout ce que vous avez dit en disant qu'avoir cette attitude de dégagement joyeux et de simplicité, c'est pas finalement vivre comme un petit enfant?
Oui, c'est vrai que quand on parle de l'abandon des petits-enfants, on voit des enfants qui dorment tout paisiblement, un bébé, on se dit avec cette espèce de confiance, de crédit fait à la vie, à la beauté, à la bonté de la vie, c'est aussi cette attitude-là dont nous faisons l'expérience par moment, de façon parfois très fugitive, mais qui est celle d'une confiance en autrui, dans d'une certaine manière une bonté originelle qui est plus originaire, disons, que le mal, pourrait dire, pour parler comme Kant, que la disposition au bien est plus originaire que le penchant au mal. Et je pense que, garder cette conviction, c'est aussi se donner les moyens de, justement, de s'engager pleinement dans le monde où nous sommes pour plus de justice aussi et plus de fraternité.
Merci pour ce témoignage, sœur Cécile.
Merci.
J'entends un bruit suspect. Que se passe-t-il donc ?
Ça vient de là-haut.
Oui, de la chambre à coucher.
L'un de nous devrait monter en bas. Chercher en haut. En bas. Allez, va, n'aie pas peur. Nous sommes tous derrière toi.
Oui, nous sommes tous derrière toi.
C'est Simplet.
Eh oui, nous sommes tous derrière toi, Simplet. Parfois, nous souhaiterions pouvoir suivre son exemple, prendre les choses avec la même candeur et le même naturel en toutes circonstances et vivre en osmose avec la nature. Car comme le souligne Fernandel dans la suite de la chanson dont nous avons entendu un extrait tout à l'heure, mais je ne vais pas le faire en chantant, « Les oiseaux sont mes confidents et quand je siffle entre mes dents, ils me comprennent tous en somme. » Mais je m'égare. Revenons à la réalité et essayons de savoir s'il est possible d'accéder volontairement à une forme de simplicité. Quelques conseils clés en main donc, et pour ce faire, nous allons partir à l'étranger et repartir en Allemagne pour être plus précis, pour voir donc ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Nous avons invité en studio un éminent professeur venu de Regensburg, qui signifie la cité de la pluie, soit dit en passant, ce qui va bien avec le temps actuel. Madame Annette Eichinger, guten Tag.
Bonjour.
Vous allez donc nous parler de la simplicité à l'allemande.
Bien sûr. Depuis quelques années, on constate un nouveau mouvement en Allemagne, un désir de simplicité et de retour aux sources. Actuellement, les Allemands lisent bien des titres à succès comme « Simplifiez-vous la vie ». On dit en allemand « Simplify your life ».
Oui, c'est très allemand, ça.
Sur l'apprentissage de la simplicité, de la réorganisation du quotidien, y compris la renonciation à la consommation de masse. En même temps, on s'inquiète de la complexité de notre société, surtout des exigences professionnelles très élevées à cause de nouvelles technologies et de la mondialisation. Pour en donner des exemples, tout le monde reçoit des tonnes des mails, on doit être joignable tout le temps, il y a des vidéoconférences très tôt ou très tard à cause du décalage horaire. Et tout cela fatigue. En plus, la nouvelle technologie provoque la surconsommation. On est forcé de changer son ordinateur, son logiciel, les smartphones régulièrement. Autre facteur de stress spécifique à l'Allemagne, les fameuses réformes de Gerhard Schröder ont provoqué un changement psychologique en Allemagne. Cela veut dire qu'on craint plus qu'avant le désenseur social, on se sent plus démuni face au risque de chômage. Maintenant, il y a aussi plus de personnes dans des situations professionnelles précaires. L'effet de toutes les exigences vis-à-vis du travail peut être l'épuisement professionnel, dont on parle beaucoup en Allemagne. De fait, les absences au travail pour cause de problèmes psychiques se sont multipliées. Pour donner un chiffre, les absences pour cause de burn-out ont augmenté de 17% en 2003. Du coup, on a pris conscience du fait que le travail et le mode de vie actuel peuvent en fait être nuisibles pour la santé. Alors que faire ? Il y a deux alternatives possibles. La majorité des gens qui veulent un changement, une simplicité de la vie, réduit les activités. Par exemple, vérifier et répondre aux emails seulement une fois par jour, et pas toutes les 10 minutes. Fermer son compte Facebook. Faire don de son appareil de télévision. Ou même passer des week-ends dans les monastères. Mais il y a des personnes les plus courageuses ou les plus frustrées qui prennent leur vie en main d'une manière plus radicale, quitte à devenir des marginaux. Ce sont aussi ceux qui ne trouvent plus le sens de la vie dans une carrière traditionnelle où on est payé pour faire augmenter le chiffre d'affaires. Ce sont par exemple des ex-banquiers qui font des voyages très longs, des ex-cadres qui ouvrent un restaurant dans les Alpes, des anciens comptables qui deviennent des guides dans la montagne. Moi, personnellement, je connais un couple qui a quitté son travail dans la programmation pour faire le tour du monde en bicyclette et qui ont lancé leur propre magasin en ligne après. Pour se lancer dans l'inconnu, il faut surtout du courage. C'est parfois seulement une solution pour des gens privilégiés qui ont peu d'obligations. Et cela veut dire un niveau de vie moins élevé. Mais en fin de compte, les hommes et les femmes qui ont risqué ce changement radical sont plus heureux qu'avant. J'aimerais bien raconter un happy ending en ce qui concerne ce couple, mais malheureusement, les deux se sont séparés il y a quelque temps. Elle a quitté son homme et vit maintenant à Hong Kong avec un autre. Mais peut-être elle n'aurait jamais osé ce pas s'il n'avait fait le tour du monde avant. Qui sait ?
À méditer donc. Merci beaucoup, Madame Eichinger. Mais je crois entendre que nos invités de tout à l'heure ont de nouveau envie d'intervenir et je crois qu'ils vont même se présenter.
Toi, tu dois être...
Joyeux, mamselle, c'est moi. Et lui, c'est simple, il a donné sa langue au chat.
Il ne peut pas parler?
Il sait pas, il a jamais essayé.
Comme c'est dommage.
Oui, mais nous pouvons parler. Et donc, pour finir, nous allons vous raconter une petite histoire. Nous restons dans le monde germanique et nous remontons encore plus loin dans le temps. Connaissez-vous le grand, l'incomparable, l'éternel, archétype du simplet, Simplicius Simplicissimus ? Thomas, au hasard, qui n'est pas germanique ?
Pas du tout.
Pas du tout. D'accord, bon ben, ce sera l'occasion de le découvrir. Ces aventures, donc, ont été rapportées par un certain Jakob Christoffel von Grimmelshausen au XVIIe siècle, sous le titre de...
Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch.
L'aventureux allemand Simplicissimus. Sous-titré...
Die Beschreibung des Lebens eines seltsamen Vaganten, genannt Melchior Sternfels von Fuchsheim.
C'est-à-dire la description de la vie d'un étrange vagabond dénommé Melchior Sternfels von Fuchsheim. Ça ne change pas. Ce roman, donc, s'inspire des romans picaresques espagnols. Simplicius est un peu le Candide allemand. L'œuvre narre à la première personne du singulier les aventures tragicomiques d'un jeune paysan, bien sûr naïf, éternel, innocent, mais pas idiot pour un sou. Il est tapé dès l'enfance dans cette interminable et cauchemardesque succession d'absurdités sanguinaires que fut pour la population allemande la guerre de 30 ans. Nouvelle question à Thomas pour se rattraper. Peux-tu me donner, s'il te plaît, les dates de la guerre de 30 ans, historien ?
Alors, 1618, 1648, évidemment, tout ça de tête. Hein.
Mais bravo, je vois que tu as eu le temps de faire tes pompes avant, si
c'est ça.
On veut faire tes pompes dans tous les sens du terme. Tout enfant, donc, Simplicius, fuyant des soldats pillards qui brûlent la cabane familiale, est recueilli par un ermite qui se charge de son éducation au fond des bois, quand on parlait des retraites dans les monastères tout à l'heure. Cet ermite lui apprend certes beaucoup sur la religion, mais peu sur la vie. À la mort de l'ermite, il prend sa succession, mais sa hutte, avec toutes ses provisions pour l'hiver, est pillée par une troupe de passage, ce qui le lance sur les routes. Emprisonné puis libéré, il devient le page d'un gentilhomme, puis le bouffon d'un gouverneur de province, puis soldat, puis brigand, puis de nouveau bouffon, etc., etc. Une vie pleine de hauts et de bas. Et voici un petit extrait qui permet de se faire une idée du personnage. Il rapporte ce qu'on dit de lui ici.
Der Sekretarius hielt davor, ich sah vor, närrisch zu halten, weil ich mich selbst für ein unvernünftig Tier schätze. Mein Herr selbst sagte, ich halte ihn für einen Narren, weil er jedem die Wahrheit so ungescheut sagt, hingegen sind seine Sekursen so beschaffen, dass solche keinen Namen zustehen.
Et comme tous mes éditeurs ne sont pas germanistes, je traduis. Le secrétaire était d'avis que j'étais fou, parce que je me considérais moi-même comme un animal privé de raison. Quant à mon maître, il dit... Je le tiens pour fou parce qu'il dit la vérité à chacun sans détour. Mais ses discours sont de telle nature qu'on ne peut les attribuer à un fou. La vérité sort de la bouche des simplets, c'est bien connu. Un merci tout simple donc à Xavier, à Fabien et à Jérôme à la technique. À Sœur Laure, qui m'a tout simplement soufflé l'idée de l'interview avec Sœur Cécile et qui m'a permis de prendre contact avec elle. Merci également à Caroline pour les sons, merci à Thomas pour la voix de Pauline et à Pauline pour sa chronique « La voix de Thomas par-dessus ». Et à Nadège et à Annette pour la réflexion au préalable. Merci à Madame le professeur Eichinger pour sa participation. Et si on vous a conseillé de ne pas aller trop souvent sur Internet ni de conseiller vos emails, ce n'est pas une raison pour ne pas écouter les autres émissions de Transistor, comme les retransmissions des interviews réalisées à Blois pour la fête de l'histoire, on va dire ça comme ça, et les émissions politiques et culturelles telles que Sans langue de bois et En spectateur. Et pour terminer, je ne résiste pas à l'envie toute simplette de faire une déclaration d'amour. À tous les simplets du monde, bien sûr.